Interview.
6 RDOA pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Luc-en-Diwa. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Marine Simon, bonjour.
Bonjour Yves.
Et de Laura Grivet, bonjour.
Bonjour Yves.
Toutes deux, vous êtes ici pour nous annoncer un événement qui va se dérouler les 4 et 5 juin 2022 au Zamanin. Et toujours autour de ce livre, donc tout tourne rond sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer. Et ça c'est aux éditions Yves Michel. Marine Simon, d'abord en premier lieu, ce que vous pouvez vous présenter, qui vous êtes et de ce que vous avez proposé dans ce livre.
Alors donc, je suis facilitatrice en intelligence collective et en gouvernance participative depuis une quinzaine d'années. Donc je suis passionnée par le vivant qui s'exprime dans les humains et dans les collectifs, comment on l'accompagne, comment on passe de la compétition à la coopération. Voilà, et à part ça, je suis aussi une très très grande amoureuse du vivant en global, depuis que je suis née, je pense, du vivant biologique, de toutes les petites bêtes, des oiseaux, des végétaux. Voilà. Et cet amour pour le vivant m'a vraiment emmenée à la fois à faire ce métier, puisque c'est un métier autour du vivant, mais m'a aussi emmenée à faire pas mal de rencontres dans ma vie, avec des biologistes, des biomiméticiens, avec qui j'ai fait des moments de recherche et de développement sur comment ce vivant qui a 3 milliards 8 d'années s'en est sorti, en fait. Quels sont les choix stratégiques qu'il a fait et qu'il continue à faire de manière permanente, comment il s'adapte, comment il s'autorégule et qui me permet, moi, de m'inspirer aussi dans mon travail.
Vous parlez de 3,8 milliards d'années, c'est-à-dire au-delà de l'âge de la Terre ?
Ah, la Terre, c'est 4,5.
Bon,
non,
désolé.
La Terre, c'est 4,5 et le vivant, c'est 3,8. Et donc, dans ces observations que j'ai eu l'occasion de mener avec, entre autres, Gauthier Chapelle, qui est un des contributeurs de ce livre, parce que une chose que je tiens à dire, c'est que ce livre est un livre collectif, associatif, voilà, pour lequel j'ai eu le plaisir de travailler avec 13 contributeurs, dont Gauthier Chapelle, qui est biologiste et biomiméticien. Et en explorant ce vivant, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est comme si le vivant avait une culture, c'est-à-dire une manière de fonctionner répétitive qui semble être la trame même de la vie, qui semble soutenir la trame de la vie, qui est la cyclicité, c'est-à-dire que dans le vivant, tout fonctionne en boucle, que ce soit les saisons, le jour, la nuit, la fructification, les graines, enfin, tout fonctionne de manière cyclique, des cycles qui se répètent à l'infini et qui en plus s'entremêlent. Tout est circulaire, à savoir que rien ne se perd, tout ce qui est mort est redécomposé pour être remis dans le cercle du vivant. Tout fonctionne dans les interrelations. En fait, le vivant qui est passé du monocellulaire dans l'eau, au multicellulaire et puis à l'ensemble de l'expression du vivant aujourd'hui. Tout ça, c'est créé parce que tous ces éléments se sont frottés les uns aux autres, ont créé des interrelations les uns avec les autres qui les ont obligés à évoluer et à créer, entre autres, ce qu'on appelle des symbioses. Et justement, sur le plan des symbioses, tout dans le vivant s'associe et inclut toute la diversité. Et moi, ce qui m'a vraiment frappée, c'est que cette culture du vivant me semble être totalement à l'opposé de la nôtre, celle qu'on a construite en Occident, mais pas qu'en Occident, hein, qui est plutôt cloisonnée. Nous, on a plutôt choisi de séparer les sujets, de séparer les matières, que ce soit à l'école ou aujourd'hui, on le voit bien, quand on a des problèmes systémiques à gérer, les spécialistes des bords divers ne se parlent pas. C'est pour ça qu'on a du mal à résoudre. Linéaire, on n'inclut pas du tout cette notion de cyclicité. On a l'impression que la vie est une grande ligne qui file vers le futur, là, le plus vite possible, et on ne comprend pas bien les retours cyclique du vivant. Voilà, le changement climatique, c'est un retour cyclique du vivant. La perte de la biodiversité, c'est des retours cycliques. Il est bien possible que Covid soit un retour cyclique, mais ce n'est pas du tout dans notre culture. Voilà. Notre culture, elle est analytique. Hein, on a tendance à aller chercher le détail. Et elle est compétitive. Voilà, ça, je pense que je n'ai pas besoin de trop le détailler. Et donc, pour moi, ma question, c'est, mais est-ce que notre culture soutient la vie ? Et si cette culture ne soutient pas la vie, qu'elle ne soutient pas la paix, qu'elle ne soutient pas la justice, eh bien, je propose d'en changer. Et si, tant qu'à en changer, eh bien, autant nous inspirer de ce qui nous vaut la vie, c'est-à-dire la culture du vivant. Voilà, ça, je dirais que c'est vraiment, en fait, le propos de mon livre.
Laura Grivet, vous êtes donc responsable développement et communication au sein des Amanins. Et vous allez aussi nous parler de cette organisation, de ces deux journées, en parallèle avec ce livre qui est organisé donc les 4 et 5 juin et qui s'intitule « Tout tourneront sur cette terre, un festival en l'honneur du vivant ». Alors, il y aura des ateliers proposés avec, j'ai compté, environ 18 intervenants pour le moment. Et puis, il y aura des rendez-vous tout au long de ces deux journées. On pourrait peut-être les présenter assez rapidement aussi.
Alors peut-être avant de présenter l'événement, ce qui serait intéressant, c'est d'expliquer pourquoi ce partenariat entre Marine Simon et les Amanins. En fait, tout ce dont vient de parler Marine fait écho complètement avec le cœur même du projet des Amanins et sa raison d'être, sachant que le projet des Amanins va bientôt fêter ses 20 ans et qu'il est parti d'un constat posé par ses cofondateurs, Pierre Rabhi et Michel Valentin, qui était de dire quelle planète laisserons-nous à nos enfants et quels enfants laisserons-nous à la planète. Déjà, à cette époque, il y a 20 ans, ces deux pionniers, on va dire, du vivant, hein, parce que c'était vraiment ce qu'ils étaient, se posaient la question du sens de notre société, du sens de la course folle à l'argent, au temps, et aussi quelle est la place des enfants dans tout ça. Et du coup, pour réfléchir à cet avenir commun, ils ont décidé de créer les Amanins avec vraiment cette envie, ce projet, cette ambition de pouvoir mettre au cœur même de ce projet de société, on peut l'appeler comme ça, les Amanins, c'est un projet de société et de transition, les enfants et le vivant et surtout la coopération. Quand les Amanins se sont créés, c'était une ferme qui avait besoin d'être retapée. Et du coup, beaucoup d'adultes ont rejoint un chantier collectif et participatif pour rénover les Amanins, éco-rénover. Et en fait, Isabelle Peloux, qui faisait aussi partie du projet, qui est la fondatrice de l'école du Colibri sur place, car les Amanins comptent aussi une école élémentaire privée laïque sous contrat avec l'État, elle s'est rendue compte que les adultes ne savaient pas du tout coopérer et que la coopération n'était pas quelque chose d'inné à l'espèce humaine. Et que du coup, c'était quelque chose qui devait s'apprendre et que dans notre culture éducative, la coopération n'était pas franchement mise en avant. Comme l'a dit Marine, on a une culture de la compétition, on va dire, plutôt que de la coopération. Et ça se voit dès le plus jeune âge, dans les fratries, mais aussi sur les bancs de l'école. Et du coup, le pari fait par Isabelle Peloux était de pouvoir répondre à cette grande question de la coopération et de pouvoir inclure cette pédagogie de la coopération dès le plus jeune âge au sein du programme en fait, de l'éducation nationale par le biais de l'école du Colibri. Et du coup, aujourd'hui, les Amanins, c'est vraiment un lieu dans lequel la coopération a sa place un peu de partout, c'est-à-dire au niveau humain. Donc les enfants apprennent à coopérer, apprennent à gérer le conflit, apprennent à coopérer entre eux, avec eux-mêmes aussi et avec leur environnement. Mais la coopération va bien au-delà, c'est-à-dire que les corps de métier entre eux aux Amanins coopèrent. On a une ferme agroécologique sur le lieu, on a un centre d'accueil et du coup on a beaucoup de métiers différents, qu'ils soient agricoles ou dans de la gestion ou dans de l'accueil. Et du coup, il faut une coopération pour que tout cet ensemble fasse un projet cohérent. Et il y a aussi une coopération avec le vivant au quotidien, c'est-à-dire respect de l'environnement, de la biodiversité, de la nature, de la terre nourricière. Tout est cyclique en fait. Donc c'est vraiment les Amanins, là où il y a vraiment un lien fort entre L'ouvrage proposé par Marine, qui est collectif, encore une fois, rappelons-le, dont Isabelle Peloux fait partie des contributeurs, est un exemple très concret de ce que peut donner en fait un changement de culture qui s'inspire du vivant. Donc c'est pour ça que ça nous a paru tellement opportun, on va dire, de pouvoir organiser un festival en l'honneur du vivant aux Amanins, qui est un lieu qui reflète en fait cette culture possible, souhaitable et soutenable, et depuis 20 ans dont on fait les preuves et l'expérimentation, en lien avec cet écrit qu'elle propose et ce changement de culture qu'on aimerait pouvoir essaimer au plus grand nombre, en tout cas.
Vous parliez à l'instant donc de pionniers du vivant en parlant de Pierre Rabhi, notamment. Ce terme désigne quoi ou signifie quoi pour vous ?
Eh ben, ça signifie un éveil de conscience, je pense. Pierre était pour nous, aux Amanins du moins, et pour beaucoup de ceux qui l'ont accompagné et qui l'ont soutenu, quelqu'un qui avait une vision qui était déjà à l'époque, hein, parce qu'on parle des années 70-80, qui allait à contre-courant. C'est-à-dire qu'un retour à la terre, à une époque où tout était en plein essor de l'industrialisation, un retour à la sobriété, un retour aussi à des pratiques agricoles qui étaient plus en faveur en fait, du vivant, justement, et moins dans l'utilisation d'intrants chimiques, par exemple. Donc l'agroécologie, tout ce qu'il a permis de faire émerger comme approche de l'alimentation, du lien à la terre, mais aussi du lien à cette sobriété qui se voulait pour lui heureuse, c'est-à-dire un retour en fait à qu'est-ce qui compte vraiment pour nous dans la vie en tant qu'espèce humaine. On fait partie d'un cycle, on fait partie du vivant, et plutôt en fait que d'imposer notre pouvoir sur cette nature qui nous nourrit, qui nous entoure et qui nous soutient, et bien plutôt pouvoir aller dans son sens et la soutenir par des biais qui soient plus sains, plus écologiques et surtout plus durables dans le temps.
Je reviens vers Marine. Pour le livre, d'où le titre « Tout tourne rond sur cette terre », est-ce que ça laisse penser que vous avez justement tourné sur cette terre pour préparer ce livre ?
En fait, au départ, je voulais appeler ce livre « Nous allons droit dans le mur parce que nous oublions de tourner ». Et puis, je fais une petite remarque dans le livre parce que je pense que le Covid nous a tourné. je pense que cette pandémie mondiale nous a fait voir, nous a fait comprendre des choses, nous a fait, entre autres, comprendre que tout était lié et relié, hein, ce qui est bien le cas dans le vivant et pas dans notre culture. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je change de titre. Et pour moi, tout tourne rond sur cette terre, c'est effectivement parce que ce vivant est essentiellement cyclique et circulaire. Et qu'il est cyclique et circulaire parce que, comme le dit Bruno Latour, il est confiné. C'est-à-dire qu'on est dans un espace fini et qu'on a eu l'occasion, c'est très intéressant, hein, moi j'aime vraiment beaucoup ce qu'il dit, finalement pendant ces confinements, on a eu à gérer autrement notre relation à notre chez-nous. On n'a plus pu partir à 7h30 en vitesse en laissant des monceaux de vaisselle et en revenant à 11h du soir juste pour se coucher. Il a fallu que l'on vive, que l'on soit au contact de nos intérieurs et que l'on soit au contact aussi des interrelations avec les êtres avec lesquels on vivait. Et ça nous a obligés au prendre soin, qui est en fait la base du vivant. Le vivant, il prend soin trois fois, comme je le dis souvent, pour obtenir des résultats qui prennent soin, parce que comme il est confiné, il n'a pas d'autre choix. Mais comme nous faisons partie du vivant, nous n'avons pas d'autre choix non plus. Voilà. Donc, je n'ai pas beaucoup tourné autour de la Terre pour écrire ce livre. C'est plutôt une image de cette culture du vivant. Par contre, effectivement, j'ai tourné. Je suis allée chercher les recherches de 13 contributeurs, dont effectivement, comme l'a dit Laura, Isabelle Peloux, qui partage comment on prend soin du sol à l'intérieur des enfants, comment on en prend soin plutôt que de considérer les enfants comme un vase vide qu'il faudrait remplir de connaissances. Voilà. Et puis il y a Gauthier Chapelle qui, dans ce livre, partage les découvertes sur le fonctionnement du vivant. Il y a Lorenza Garcia qui sera au festival et qui, elle, est une femme qui est chanteuse, qui est artiste, mais qui surtout vit depuis 20 ans, plusieurs mois par an avec des Indiens Navarro. Et donc qui connaît bien cette culture des peuples racines et de ces peuples dont la culture reste enchevêtrée à celle du vivant depuis toujours, en fait, qui nous montre une voie d'une autre manière d'être humain sur cette terre. Il y a Frédérica Van Ingen, alors une diwaze, voilà, que je vais d'ailleurs enregistrer pour un podcast, parce que ce livre donne maintenant lieu à un podcast. Il y a Hervé Covez, qui est agronome et franciscain, et qui lui sera au festival, et qui nous parlera, c'est un spécialiste des réseaux mycorhiziens et des flux migratoires. Il y a Fabienne Gréber, qui est aussi quelqu'un qu'on connaît bien dans la région, puisque c'est une élue à la région, une élue écologiste à la région, et qui viendra nous parler de la liste participative, la manière dont ça s'est passé, comment on peut faire avec le vivant sur un territoire, puisqu'elle a participé à la liste participative à Annecy. Il y aura alors un duo, Jérémy Van Hout et Aline Farès. Alors Jérémy Van Hout est l'illustrateur de mon livre, mais là avec Aline Farès, il prépare une BD sur la finance. Finance qui est aussi un domaine qui aujourd'hui est complètement séparé de la logique du vivant, tant dans sa rapidité que dans la manière dont les produits de la finance sont détournés du soutien à la vie, au contraire. Parmi les autres intervenants qui sont, il y aura Charlotte Augier qui viendra nous faire expérimenter du travail qui relie, qui est un très beau travail d'éco-psychologie. Il y aura, on l'espère, Karim Lab qui est biomiméticien. Voilà, lui, il est encore à confirmer. Et puis, surtout, moi, ce qui me plaît dans ce projet, c'est que on a associé ces contributeurs du livre, ou en tout cas les personnes avec lesquelles je travaille, avec tous les acteurs des Amanins, avec Nathalie Gérardini, qui s'occupe de l'accueil, avec Daniel Billy, qui est le factotum du lieu, le factotum poète, comme j'aime le dire, avec Christelle Roua, l'éleveuse, avec qui on pourra faire des ateliers de rencontres avec les brebis, Anna Rocher, Emmanuel Extier, Jean-Philippe, qui sont les maraîchers du lieu, et puis Nicolas Brumeau et Laura, qui nous parleront de ce projet et qui emmèneront les personnes à la découverte de ce projet des Amanins. Voilà. Et donc ce livre et ce festival sont complètement liés. Hein. Le festival, c'est une mise en action et une invitation dans l'action, la découverte, les rencontres du contenu du livre.
Je pense que Marine en parlera plus aussi tout à l'heure, mais on aura aussi la chance et l'honneur de pouvoir accueillir Emmanuel Caplin dans le cadre de la projection de son film « Une fois que tu sais », et qui lui aussi est tout à fait lié en fait à ce sujet. Et je me dois, je pense, hein, de pouvoir faire aussi un lien avec l'actualité, parce que ce festival, au final, rien n'arrive par hasard. Ce festival intervient dans un contexte géopolitique mondial qui est très tendu, qui est très inquiétant et qui montre à quel point, en fait, tout tourne pas rond sur Terre pour l'espèce humaine, quoi. Et que tout est cyclique, au final, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire, on le voit bien avec le prix des carburants qui augmente, avec ce conflit, en fait, en Ukraine qui est arrivé, que tout est interrelié, mais pas dans le bon sens, pas dans le sens du vivant, en tout cas, mais plutôt dans un sens un peu délétère et morbide. Et que, plus que jamais, en fait, il nous faut pouvoir prendre ces signaux forts que nous envoient nos sociétés et à quel point en fait elles sont malades, qu'elles sont en déperdition, et que ce festival qui intervient dans ce contexte, voilà, qui n'est pas forcément très rose, et ben peut nous permettre aussi de pouvoir éveiller nos consciences et de contribuer encore d'une autre manière à pouvoir inverser cette culture violente et dans laquelle on baigne en fait ces dernières semaines. Et pouvoir en montrer qu'en fait, il y a d'autres issues possibles et que la paix fait partie intégrante en fait, du vivant. Et que c'est aussi notre rôle, notre place et notre devoir de pouvoir la soutenir. Voilà, c'était important pour moi de pouvoir dire ça.
Alors, sur ces deux journées, il y aura ce premier rendez-vous le samedi 4 juin à 10h, une cérémonie d'ouverture et une présentation et les intentions des intervenants. Donc, une présentation globale à tous les participants de ce qui va se dérouler, suivi ensuite d'un déjeuner. Et à 14h, le premier temps d'atelier. Donc, là, on peut, sans devoir présenter en détail, mais l'ensemble des personnes seront déjà à proposer des ateliers.
Donc l'esprit vraiment de ces deux jours, c'est d'être extrêmement participatif. Donc même lors de la cérémonie d'ouverture, on se présentera, les intervenants se présenteront, mais courtement, on présentera l'intention. Et puis on fera tout de suite travailler les participants aussi pour connaître leur intention. Les ateliers de l'après-midi, en fait, on s'organisera de manière à ce que les participants puissent participer à 4 ateliers sur le week-end. À savoir que le samedi après-midi, il y aura une première série d'ateliers d'une heure et demie, et puis une pause, et une deuxième série d'ateliers d'une heure et demie. Et ces deux séries seront répétées le dimanche matin, de manière vraiment à ce que les participants puissent rencontrer et échanger et travailler et réfléchir avec plusieurs des intervenants qu'on a cités. Et on aura des moments de plénière aussi, juste avant le dîner du samedi, où les participants pourront raconter ce qu'ils ont vécu dans l'un ou l'autre atelier, de manière à s'inspirer les uns les autres. Et enfin, le dimanche après-midi, après le déjeuner, on aura ce qu'on appelle une sorte de forum ouvert, qui sera un moment où les personnes qui auront échangé, discuté, appris, découvert des aspects de cette culture du vivant auront l'occasion de partager une intention du type « avoir entendu tout ce que j'ai entendu, ce que ça me donne envie de faire, c'est… » voilà, et pourront du coup elles-mêmes créer des petits ateliers pour être rejointes par des personnes qui auraient une aspiration semblable et qui pourraient du coup faire des liens, passer des adresses, des contacts de leurs sœurs, leurs belles-sœurs, leurs frères, voilà, mais aussi d'ouvrages ou d'autres choses, pour que finalement, à l'inverse de grands événements comme ça, j'ai beaucoup participé à des événements comme ça, qui peuvent être absolument passionnants, où on croise des personnes et puis on se quitte et on s'en va et on n'a pas de carnet d'adresse, on ne sait pas comment recontacter les personnes. Voilà, on a un très beau souvenir de ce dont il s'agissait, mais on s'en va seul en fait. Et ici, dans ce festival, l'idée c'est vraiment que les personnes ne repartent pas seules, qu'elles repartent en ayant fait des liens, en ayant un carnet d'adresses, en ayant des personnes, des lieux, des projets à contacter pour emmener plus loin ce qui les inspirerait.
Et puis, je rebondis sur ce que vient de dire Marine, ne repartent pas seules, ce n'est pas forcément… que avec des contacts et tout ce qu'elle vient de citer, mais c'est aussi avec en soi en fait une inspiration, des souvenirs et surtout un contact avec des humains, mais aussi avec du non-humain. C'est-à-dire justement ce que permet de venir toucher et percevoir et voir les amanins, c'est-à-dire le contact avec les animaux, le contact avec la nature, le contact avec l'âme du lieu. Tout ça, en fait, c'est quelque chose avec lequel ils pourront repartir et qui pourra aussi permettre de nourrir de l'émerveillement, de l'inspiration, de la créativité et peut-être une envie d'agir à d'autres échelles et d'aller planter des graines ailleurs. Et ça, c'est vraiment aussi le pourquoi de ce partenariat.
Dans cette démarche de ces rendez-vous et ensuite de retenir une mémoire de ces organisations, est-ce que vous prenez des notes ? Est-ce qu'il y a des enregistrements aussi qui permettent de pouvoir rappeler ou d'étendre un peu plus ce mouvement sur les ondes ou sur des textes, par exemple ?
Au festival, on aura probablement la joie et le plaisir d'avoir deux facilitatrices graphiques qui vont nous faire des résumés dessinés de ce qui se passera. Mais maintenant, ce livre « Tout tourneront sur cette terre » donne lieu depuis le 15 mars à un podcast. Donc moi, j'ai lancé ce podcast avec une première saison d'un an dont le thème sera « Ce vivant dont nous sommes », vraiment avec des invités qui vont pouvoir nous parler profondément du vivant, témoigner profondément de la manière dont fonctionne le vivant, pour qu'on puisse le voir, le sentir, pour qu'on puisse se remettre en contact avec ce vivant, comprendre sa logique. Et la deuxième saison, son thème sera « Bâtir une société humaine qui soutienne la vie ». Voilà, donc ça, ce sera plutôt le programme à partir de avril 2023. La bande-annonce de ce podcast est sur toutes les plateformes de podcast depuis le 15 mars. Et le premier épisode où mon invité est Gauthier Chapelle sera en ligne le début avril et puis Hervé Covès début mai. Et on va comme ça, je vais comme ça inviter pas mal des contributeurs de mon livre, mais aussi d'autres personnes capables de venir partager en fait toute cette intelligence et cette beauté du vivant. Moi, c'est ça qui vraiment, quand on parlait de Pierre tout à l'heure, je pense que Pierre Rabhi a été vraiment quelqu'un qui nous a appris à nous réémerveiller de cette beauté du vivant qui est non seulement efficace, mais qui est d'une poésie incroyable.
Oui, et puis surtout en toute humilité. C'est ça aussi que proposait Pierre, c'est de pouvoir se réémerveiller du vivant, mais aussi en pouvant rester humble devant elle. C'est-à-dire que l'espèce humaine aurait aussi bien besoin de reprendre une petite dose d'humilité face au vivant qui, comme le dit si bien Marine, comptabilise quand même 3,8 milliards d'années. Donc on est un petit peu des embryons face à elle et on a encore énormément à apprendre et à s'inspirer.
Donc le podcast est disponible sur toutes les plateformes, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube. Ce podcast, mais son titre, c'est le même, c'est « Tout tourneront sur cette terre ».
Je voudrais revenir aussi sur la notion du vivant. Il y a le regard de l'homme et puis sa philosophie. Et comment concevoir celle de l'humanité face à la nature ?
Je pense que sur ce champ-là, ces peuples que l'on dit racines, premiers, autochtones, hein, qui sont 6000 peuples aujourd'hui, ils sont encore à peu près 500 millions de par le monde, nous montrent une autre manière d'être humain. Donc pour eux, si nous, on a eu tendance à développer une culture où on s'est mis au sommet de la chaîne alimentaire, mais aussi au sommet des espèces, hein, nous font partie de ce que nous appelons les espèces supérieures, alors que finalement, nous sommes de grands respirateurs, mais nous ne créons pas notre oxygène. Nous sommes de grands mangeurs, mais nous ne créons pas la photosynthèse qui nous permet de manger les légumes. Nous sommes de grands consommateurs de bois pour nos constructions, mais les arbres, ce n'est pas nous qui les avons inventés. Tout ça est le produit d'espèces microscopiques, virus, bactéries, algues, qui ont créé ce vivant et qui lui permettent de s'entretenir à chaque instant. Si nous respirons, c'est bien parce que les algues nous envoient de l'oxygène par la photosynthèse, ainsi que les arbres. Demain, il n'y a plus de soleil ou il n'y a plus d'algues et nous devrons arrêter de respirer. Et donc, nous mourrons. Hein, voilà. Et je pense que c'est tellement dans l'habitude qu'on ne le conscientise pas. Alors que les peuples racines ont gardé vraiment cette culture pour eux. Ils se sentent appartenir à l'ensemble du vivant. Ils ne sont pas au-dessus de la chaîne. Ils sont une espèce comme les autres. Et comme en plus, ils sont une espèce dotée de conscience, ils estiment qu'ils ont une très grande responsabilité par rapport au vivant. Et donc, chaque génération, et ce qui est vraiment très touchant, c'est que vous les trouviez en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Australie ou ailleurs, en fait, ils partagent vraiment la même représentation du monde. Pour eux, chaque génération est responsable de garder le vivant dans l'état dans lequel il l'a trouvé ou de le bonifier juste pour qu'il soit pérenne jusqu'à la 7e génération à venir. C'est énorme. Nous qui, dans notre culture, chaque génération ces dernières décennies, a été un peu plus destructrice que la précédente. Donc, voilà. Donc, il y a quelque chose qui montre que ces peuples peuvent nous montrer la voie d'une autre manière de nous inclure dans le vivant. Et moi, parmi les choses qui me touchent vraiment beaucoup chez ces peuples et qui différencient leur culture de la nôtre, c'est qu'il me semble qu'ils ont ce que j'appelle un savoir chaud. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont une connaissance incroyable sur les plantes, sur les animaux, sur le cosmos globalement, mais qui le rencontrent avec leur sens, avec leurs intuitions. Ils vont beaucoup toucher, ils vont sentir, ils vont investir leurs émotions et leur compréhension mentale après. Et nous, on a plutôt développé un savoir froid. intellectuelle, mentale. On sait plein de choses. Hein. Aujourd'hui, on sait très bien dans quel état est notre planète. On sait qu'on est en danger. Le GIEC nous l'a bien répété encore ces dernières semaines. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit, ce qui est vraiment bien dommage. On le sait intellectuellement. Et en fait, on ne passe pas à l'action. Et ce qui me touche aussi chez ces peuples, c'est que tout ce qui constitue leur savoir, parce que c'est passé par leur corps, c'est passé par leurs émotions, en fait, ils l'assortissent d'action. Et je donne un tout petit exemple hein, chez le peuple mongol. Pour tous ces peuples, la terre, c'est la terre-mère et c'est sacré. Et donc, par exemple, chez le peuple mongol, ceux qui vivent encore dans la toundra, ils portent des chaussures à bout recourbé pour ne pas blesser la terre quand ils marchent. Et voilà, pour moi, c'est ça l'avenir de l'humanité globalement, c'est de reprendre conscience, connaissance, de se relier à nouveau à ce vivant pour pouvoir le connaître, le connaissant pour pouvoir l'aimer et l'aimant pouvoir en prendre soin. Et quand on sera dans cette logique-là, alors on trouvera d'autres solutions qui ne seront pas plus extractives, destructrices, voilà, mais qui seront plutôt, comme le vivant, parcimonieuses, associative, veillant à prendre soin de l'ensemble de la trame, parce que la vie, c'est une trame. Et que si trop de fils de cette trame se déchirent, nous serons une des premières espèces à y passer, parce que nous ne sommes pas très, très adaptés.
Et pour complémenter un petit peu ce que vient de dire Marine, moi, j'ai aussi l'impression, elle parlait de savoir froid, j'ai l'impression que l'espèce humaine a comme en fait déconnecté la tête du corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une conscience plus évoluée, entre guillemets, mais c'est comme si on n'avait plus en fait, à se reconnecter à ce qui nous émeut, à ce qui passe en fait, par le corps, au ressenti. Et je pense que l'espèce humaine a aussi beaucoup à aller revoir dans tout ce qui est spiritualité. Ce qu'apportent d'ailleurs aussi les peuples racines, beaucoup. Eux ne l'ont pas oublié, cette spiritualité. Ils n'ont pas fait une dichotomie dogme religieux, VS philosophie ou spiritualité en lien avec la nature, avec le vivant. Et du coup, je pense aussi qu'aujourd'hui, il serait intéressant qu'on aille un peu panser les plaies, qu'on aille un petit peu pouvoir... De manière très encore humble une fois et curieuse, pouvoir se reconnecter à cette spiritualité en lien avec le vivant qui nous appelle et qui fait partie de nous, je pense, de manière très, très simple et sans partir sur quelque chose de dogmatique, justement. Et je pense que souvent, cette notion de spiritualité est un peu décriée ou un petit peu mise de côté, car justement, elle ne rentre pas dans des cases, elle n'est pas intellectuelle, alors qu'elle nous permettrait, je pense, de pouvoir nous raccrocher au vivant et le comprendre de manière un petit peu plus symbolique et émotionnelle. Voilà.
Je reviens sur vos propos, Marine, concernant les 5000 peuples. Qui existe encore aujourd'hui. Quelle est la notion de ce qui se trouve sous la terre pour eux ?
En fait, pour eux, la terre est sacrée parce que la terre, c'est la terre-mère. Et Laura vient de nous parler de spiritualité, mais c'est intéressant parce que la spiritualité aussi, alors eux ne séparent pas le spirituel du ressenti. Et finalement, cette notion de terre-mère, on pourrait dire, oh, c'est spirituel. Mais en fait, si vous utilisez vos sens, si on utilise les sens et un petit peu de présence et de conscience, si on regarde cette terre sur laquelle est né le vivant, cette terre qui produit tout ce qui nous nourrit, tout ce qui nous soigne, tout ce qui nous permet de nous abriter, de tout ce qui nous permet de nous habiller, tout ce qui nous permet de respirer, je pense qu'on a là affaire à la meilleure mère du monde. En plus, elle le fait de manière inconditionnelle, qui qu'on soit sympa, qu'on soit pas sympa, qu'on soit de bonne humeur ou qu'on ne soit pas de bonne humeur, elle nous fournit tout ça. Et tout ça grâce à ce que les peuples racines appellent le Père Soleil. Je connais pas d'autre père qui soit aussi aimant avec notre mère, ni qui nous réchauffe tous les jours, qui nous éclaire tous les jours. Demain, le soleil s'éteint, c'est fini. Et donc, c'est intéressant de voir qu'effectivement, pour eux, la Terre est sacrée et que ça a l'air d'être spirituel, mais en fait, c'est très réel. Il suffit juste de se mettre en contact avec cette réalité qui nous porte. Alors, effectivement, du coup, pour eux, comme la Terre, c'est la Terre-mère, on n'a pas le droit d'abîmer la Terre. Ça veut dire que, par exemple, en Mongolie, quand c'est un peuple qui est nomade, hein, qui passe d'une région à une autre l'été, l'hiver, avec ses yaks, souvent. Quand ils démontent leur campement, donc ils vivent en yourte, quand ils démontent leur campement, ils balayent la terre pour effacer les traces des pieux. Alors, voilà, ça c'est quand même intéressant si on le compare à notre manière, hein, de laisser des déchets et des constructions à l'abandon partout et de ne pas du tout faire en sorte de nettoyer. Et puis, j'ai envie aussi de partager une anecdote que m'avait partagée Éric Julien, un autre Diwa, qui avait, donc ici dans le Diwa, on connaît bien, hein, certains peuples racines, dont les Indiens Kogis, puisque Éric les a fait venir plusieurs fois, et qui racontait qu'un jour, il les avait emmenés dans le TGV, et le TGV qui était entré dans un tunnel creusé dans la montagne. Et les Kogis avaient crié en disant « Oh, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait un trou dans le corps de la Terre-mère? Mais pourquoi vous avez fait ça ?» Et Eric leur a répondu « Mais pour aller plus vite. » Et ils lui ont répondu « Mais pour aller plus vite, jusqu'où ?» Et je pense qu'on ne se pose jamais cette question. Plus vite, jusqu'où? Pour ces peuples, à partir du moment, et je pense que ce n'est pas très compliqué en fait, c'est juste une question de conscience, à partir du moment où on se rend compte que ce qu'on a dans l'assiette est le produit d'abord d'éléments non humains, de tout ce qui crée l'humus, qui permet que les légumes poussent, qui permet que les herbivores se nourrissent des pâtures, du soleil, de l'eau. Et juste si on s'arrête un instant devant son assiette et qu'on tire les fils de conscience jusque-là, mais je ne vois pas ce qui peut nous arriver d'autre que de la gratitude. Voilà.
Cette soirée du samedi à 20h30, un film, donc une fois que tu sais, un documentaire d'Emmanuel Kaplan, on peut peut-être en parler rapidement aussi, de quoi traite-t-il?
Donc Emmanuel Kaplan est, comme il le dit, amoureux du vivant et s'est rendu compte au fur et à mesure du temps de la situation du monde et de cette pression sur le vivant. Et ça l'a beaucoup angoissé. Il y a vraiment une bascule dans sa vie, hein, quand il s'est rendu compte de ça. C'est d'ailleurs pour ça que ce film s'appelle « Une fois que tu sais ». Il s'est rendu compte qu'à partir du moment où il avait conscience de l'état dans lequel on était en train de mettre la planète, eh bien, il ne pouvait pas rester à ne rien faire. Pour lui, ça a envahi l'ensemble de sa vie. Et du coup, il a eu envie d'aller interroger des personnes qui pouvaient davantage encore lui parler de ça. Et ce film est un film magnifique de son propre cheminement, mais qui en fait est en miroir du cheminement de beaucoup d'entre nous. Et un passage que moi j'aime particulièrement dans ce film, c'est qu'il est allé voir les habitants du Bangladesh, qui eux sont déjà, nous on est encore très loin, on peut encore, oui on a des incendies, des inondations, mais on peut encore se faire croire que le réchauffement climatique, voilà, ça viendra dans 50 ans, alors qu'effectivement, les habitants du Bangladesh sont confrontés depuis des années à la montée des eaux. Ils ont été obligés de transformer leur culture de riz avec la montée des eaux en activité de pisciculteurs. On voit comment ils ont aménagé leur logement et ils sont dans ce changement. Et je trouve que ça nous montre à quel point nous, on est quand même encore à la marge, on est sur le bord de ce qui va nous arriver. Et on voit aussi chez ces personnes à la fois tout le bouleversement, mais aussi toute la joie d'avoir trouvé des solutions qui soient compatibles avec ce que le vivant propose.
J'aimerais bien faire un retour sur les Amanins et aussi le pourquoi de ce partenariat. Ce qui est intéressant, comme vient de le dire Marine, c'est qu'à un moment donné, il y a des prises de conscience. Emmanuel Kaplan l'appelle « Une fois que tu sais ». Michel Valentin, qui était cofondateur des Amanins, l'a appelé « Ce qui compte ». Ce qui fait sens. Et il y a un autre film voilà, qui retrace un petit peu l'histoire des Amanins et surtout de Michel Valentin et de pourquoi et comment il en est arrivé à créer ce projet de centre agroécologique. Il faut savoir que Michel Valentin était un homme d'affaires qui avait très très bien réussi sa vie, qui avait amassé beaucoup d'argent. Et en fait, un jour, il s'est posé la question, un peu comme les Indiens Kogi qui disent « mais jusqu'où on veut aller plus vite ?» Michel Valentin s'est demandé « mais jusqu'où je vais amasser cet argent et pourquoi faire ?» Quelle est la raison, le sens ? Et du coup, à un moment donné, il s'est dit « mais comment est-ce que je peux rendre ce qui m'a été donné ? Comment est-ce que je peux faire quelque chose qui ait un sens avec tout cet argent ?» Et d'où sa rencontre avec Pierre Rabhi et cette question fondamentale, cette double question fondamentale du coup, quels enfants laisserons-nous à la planète et quelle planète laisserons-nous à nos enfants? Et du coup, c'est le principal mécène d'un projet qui a aujourd'hui 20 ans et qui est les Amanins et qui montre qu'une transition sociétale et humaine est possible. Donc en fait, tout est interrelié entre ce que propose Emmanuel dans son film, ce que propose Marine dans son livre, avec tous ses contributeurs, et ce qu'ont proposé Pierre et Michel, ainsi qu'Isabelle, aux Amanins.
Changeons de culture et co-créons une société humaine qui soutienne la vie. C'est pour ça vous avez ces 18 intervenants. Il y a un public aussi que vous accueillerez pour ces deux journées. Quelle est la suite donnée au public qui vient vous voir chaque année? Est-ce que ça permet une ramification dans le système agricole, économique?
Alors, vis-à-vis du public que l'on accueille aux Amanins chaque année, on propose plusieurs choses, plusieurs différents types d'accueil. Notre volonté, notre raison d'être, c'est de pouvoir transmettre les fruits de nos expérimentations, parce qu'on n'a pas du tout la prétention de se prétendre sachant aux Amanins. On est plutôt des pionniers, des expérimentateurs de nouvelles pratiques en faveur du vivant. Et du coup, on transmet les fruits de ces expérimentations. Notre but, c'est de pouvoir inspirer, de pouvoir transmettre, et ensuite, au bon gré de ces personnes, de pouvoir en faire ce qu'elles en veulent et les transformer pour pouvoir faire en sorte qu'elles s'adaptent au territoire dans lequel elles vivent. Je pense qu'il est très compliqué de pouvoir faire des copier-coller aujourd'hui. Il n'y a pas de baguette magique, en fait, qui permet de pouvoir reproduire quelque chose qui s'est fait quelque part, parce que tous les écosystèmes sont uniques et ce qui s'est fait aux Amanins ne saurait être fait au millimètre près sur un autre territoire. Donc en fait, on essaye d'inspirer surtout, d'inspirer les gens qui viennent chez nous, que ce soit lors de séjours vacances, de classes découvertes pour les plus jeunes et pour les professeurs qui les accompagnent. Pour ceux qui viennent se former aux Amanins, c'est comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'inspirer de ce qu'on leur transmet et pouvoir ensuite le transformer ailleurs. Et on a de très très beaux exemples, et que ce soit aussi les entreprises qui viennent en séminaire et qui repartent avec un aperçu de cette culture justement circulaire, de coopération, de rapprochement avec la nature et le vivant. Comment est-ce que chacun de ces différents protagonistes ou de ces différentes organisations va pouvoir ensuite faire un petit pas, une petite action, leur permettant de se rapprocher de ce qui les a inspirés, de ce qui les a touchés aux Amanins? Je n'aurais pas la prétention de savoir dire qu'est-ce que ça a généré au global, mais je sais que ça a généré des transformations et que ça a pu planter des graines à travers toute la France. On propose vraiment aux Amanins souvent une expérience qui est immersive. C'est vraiment important pour nous que les gens puissent être plongés en fait au cœur de ce que l'on propose, car c'est un événement qui se veut pouvoir attirer des personnes de la France entière. Du coup, on propose en fait un hébergement, une pension complète d'immersion dans ce que proposent les Amanins, donc des bâtiments éco-conçus ou éco-rénovés, sobres mais confortables, que ce soit dans du dur ou de la cabane en bois ou du camping, mais aussi des personnes qui puissent venir plutôt en local, donc en externe, mais qui puissent vivre du moins l'expérience d'immersion via les repas que l'on propose aux Amanins, qui sont du jardin à l'assiette, donc le circuit le plus court que vous pourrez retrouver en fait dans l'alimentation aujourd'hui et qui pourront du coup se nourrir, se sustenter d'une autonomie alimentaire qui aujourd'hui atteint 80%, c'est-à-dire que l'on retrouve dans l'assiette déjà du 100% fait maison aux Amanins, des produits magnifiés par nos équipes de cuisine, mais aussi par nos maraîchers et nos éleveurs. Donc voilà, c'est une promesse gourmande aussi que l'on propose lors de ce festival.
Vous avez votre réserve de blé aussi ?
Oui, tout à fait. On a une réserve de blé qui nous permet de faire notre farine, qui nous permet de faire notre pain, nos pâtes alimentaires, mais qui nous permet aussi, sur ces terres arables, de pouvoir faire pousser tout ce qui est alimentation pour les animaux, c'est-à-dire des types de blé, mais aussi du foin, tout ce qui nous permet aujourd'hui d'être en autonomie vis-à-vis du bien-être et des humains et du non-humain.
Voilà, l'émission touche à sa fin, donc je rappelle cette rencontre « Tout tourneront sur cette terre », un festival en l'honneur du vivant les 4 et 5 juin 2022 aux Amanins, à La Roche-sur-Crane. Et je vous remercie en tout cas Marine Simon et Laura Grivet d'être venues nous parler de cette rencontre. Et on se reverra bientôt, je crois, pour de nouvelles ouvertures mi-juin. Et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.
Merci. Merci Yves et rendez-vous aux auditeurs en juin.
Interview.
Ok, de bonne.
L'interview du jour.
L'interview du jour.